Voilà, à toi Wilfried, merci d'être venu.
Merci Jean. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, oui, pas très bien. Ah, là ça va mieux, merci. J'ai eu peur quand Jean a dit qu'il était milliardaire, j'ai cru qu'il était actionnaire de Nestlé, ce qui m'aurait quand même pas mal surpris, mais non, non, il est riche d'une autre façon. Alors moi je ne vais pas vous faire un cours magistral, bien qu'on soit dans une université. Surtout envie d'animer le débat et puis que vous puissiez réagir à ce film. Je crois que Jean a raison, après ce film qui est quand même un film coup de poing, on a aussi besoin de parler, je crois, de dire des choses, de s'exprimer, de débattre. Moi, je suis pas un spécialiste comme peut l'être Jean Ziegler, par exemple, qu'on a entendu à de multiples reprises dans le film. Et d'ailleurs, je prends mon autre casquette, puisque dans le civil, je suis libraire, pour vous inviter à lire les ouvrages de Jean Ziegler, qui sont vraiment passionnants. Mais disons que je me suis intéressé à ces questions d'alimentation, puisque j'ai fait des études en histoire rurale contemporaine, et je me suis notamment intéressé à René Dumont, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qu'on surnommait l'agronome de la faim, puisque ça a été un des premiers, dès les années 50-60, à nous alerter sur le problème de la faim dans le monde et essayer de trouver des solutions avec les paysans du monde et non pas contre les paysans du monde, mais bien à s'appuyer sur leur connaissance pour essayer de s'attaquer à ce terrible problème de la faim. Voilà, il se trouve aussi que j'étais militant d'Attaque, d'Artisans du Monde et d'une organisation qui s'appelle Agronomes et Vétérinaires sans frontières et que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire avec eux une... Je dirais pas mission parce que j'aime pas ce terme-là puisque ça fait un peu missionnaire, disons d'aller rencontrer des paysans en Équateur pour connaître un peu leurs difficultés et voir comment on pourrait monter aussi des programmes de coopération entre la Bourgogne, puisque je suis aussi élu au conseil régional, et ces pays. Et ce qui était frappant là-bas, c'était qu'on retrouvait certaines problématiques qui sont exposées dans le film, c'est-à-dire des entreprises agricoles de plus en plus grandes, de plusieurs centaines, voire milliers d'hectares, qui servaient à produire des productions agricoles pour l'exportation. Et au côté de ça, des paysans qui se retrouvaient repoussés de plus en plus loin, dans les montagnes, sur des terres très difficiles à cultiver, et qui pouvaient tout simplement plus vivre de leur métier. Et les jeunes en Équateur, leur rêve, c'était d'émigrer aux États-Unis, où ils espéraient pouvoir trouver du travail. Et le deuxième revenu du pays, c'était ce qu'on appelle les remessas, c'est-à-dire c'est ce que ces gens partis aux États-Unis renvoient à leur famille. C'était le deuxième source de revenus du pays. Les jeunes, pas d'avenir, pas de terre à cultiver, quittent le pays pour essayer d'avoir un avenir. Et je crois que c'est ce que montre très bien ce film aussi, hein. C'est comment on pousse des gens à quitter leur terre, à aller ensuite dans des bidonvilles, ensuite à risquer leur vie pour émigrer vers nos pays où ils espèrent pouvoir vivre. Bref, je ne vais pas trop monopoliser la parole, juste quelques données. Jean Ziegler en parlait dans le film. Hein. À peu près, on estime aujourd'hui qu'il y a 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. Le paradoxe, c'est que la plupart sont des ruraux, sont des paysans, qui n'arrivent pas à vivre de leur production. Et puis un autre chiffre qui montre bien à quel point on a changé d'échelle. Par exemple, en France, en 1950, un paysan, il produisait à peu près pour 5 personnes. Ce qu'il produisait servait à nourrir 5 personnes. Aujourd'hui, un paysan, ce qu'il produit, sert à nourrir 100 personnes. C'est vous dire qu'on est vraiment passé à une société complètement différente, avec bien sûr, dans le même temps, un nombre de paysans qui a diminué de façon... colossal, hein. Il y a moins d'un million d'agriculteurs en France aujourd'hui et l'agriculture ne ressemble plus du tout effectivement à ce qu'elle était il y a 50 ans. Alors c'est bien d'un certain point de vue, ça l'est moins d'un autre. Voilà. Bon, je pense que je pourrais vous parler de plein de choses, mais je crois que ce qui est intéressant c'est qu'on discute, qu'on débatte. J'aurai pas forcément de réponse à vos questions. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui auront des réponses à des questions d'autres. Mais bon, c'est intéressant qu'on en discute. Si, la dernière chose que je voulais dire, et ça, il y a un autre livre qui s'appelle « Nourrir l'humanité » qui est très intéressant, c'est que on a quand même un défi colossal devant nous. C'est qu'on estime qu'en 2050, il y aura 9 milliards d'habitants sur la planète et qu'il va falloir trouver des solutions pour nourrir tous ces gens-là. Nourrir en produisant différemment, c'est-à-dire nourrir aussi en consommant moins d'énergie, moins d'engrais, avec peut-être moins de terres disponibles. Donc il va falloir produire plus avec moins. Donc il y a vraiment là en face de nous un enjeu colossal pour les prochaines années. Et je pense que c'est important justement de voir ce genre de film pour que tous les citoyens en soient conscients et qu'on puisse réfléchir ensemble aux façons de relever ces défis. Alors, je crois qu'il y avait...
Oui, moi je voulais que tu puisses revenir, s'il te plaît, sur en quoi ça a du bien qu'il y ait moins d'agriculteurs, ce que tu viens de dire juste avant.
Non, j'ai pas dit que c'était bien qu'il y ait moins d'agriculteurs. Je dis que... moi, j'ai discuté aussi avec des agriculteurs où, malgré tout, il y a 50 ans, les conditions de vie des agriculteurs étaient extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. C'était pas facile. Donc, il y a quand même eu des améliorations dans la vie des paysans, notamment avec des progrès dans la mécanisation, des progrès dans la qualité de vie, qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire quand je disais qu'il y avait aussi eu des améliorations, notamment dans la qualité de vie et dans les conditions de vie et de travail du monde agricole. Voilà, c'était en ce sens-là que je disais qu'il y avait aussi des choses positives dans la mutation de l'agriculture française.
D'accord, je suis d'accord avec toi, mais moi je rejoindrais plutôt des propositions comme celle de Pierre Rabhi avec une famille sur un hectare. Et là, dans le film, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la notion de dépendance des agriculteurs, quoi, qui est de plus en plus grande. Donc, si on revient à des structures de taille plus modeste, peut-être que on éviterait cette grande dépendance, quoi.
Oui, on est d'accord. Madame.
À part le boycott individuel sur les produits industriels, d'alimentation industrielle, qu'est-ce qu'il existe des alternatives un peu plus qui pèsent un peu plus sur la grosse industrie alimentaire? D'autres alternatives que notre démarche individuelle?
Alors, je crois qu'il y a... Il y a deux écueils souvent qu'on rencontre. C'est-à-dire que souvent, face à la question que faire, il y a des gens qui pensent que tout repose uniquement sur des initiatives individuelles du consommateur. Effectivement, c'est une part de la solution, mais c'est pas la seule. Et puis il y en a d'autres qui considèrent que non, la seule façon d'agir, c'est d'agir au niveau politique. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut essayer d'agir aux deux niveaux. C'est-à-dire avoir une action en tant qu'individu, en tant que consommateur, mais pas oublier qu'il y a un échelon politique qui reste indépassable, enfin que c'est quand même là que se prennent les grandes décisions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? Bon, boycotter Nestlé, faut... vous allez plus acheter grand-chose, hein, vu à quel point ils sont présents dans tous les secteurs de l'alimentation, l'eau, les biscuits, enfin... Échapper à Nestlé, c'est extrêmement difficile. En revanche, bon, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on peut essayer de favoriser des circuits de production locaux. Bon, par exemple, à Nevers, il y a ce qu'on appelle une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, où en fait des consommateurs se groupent pour travailler en direct avec des paysans qui proposent toutes les semaines des paniers de produits de saison. Ça permet à la fois aux gens de s'approvisionner en produits frais, en produits de qualité, et ça permet aussi à des paysans d'avoir des débouchés assurés. Alors bon, bien sûr, après il y a des problèmes, hein, tout n'est pas idéal, mais c'est vrai qu'essayer de se rapprocher des paysans et de travailler en direct le plus possible avec eux, ou alors avec des associations ou des coopératives qui regroupent ces paysans, ça peut être des solutions.
Sauf que quand même la solution politique, je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, pour que ces entreprises puissent avoir pris la dimension et l'importance qu'elles ont pris, c'est que le politique a laissé faire, voire soutenu. Donc, je suis un petit peu...
Oui. Hein? L'Europe pas seulement.
La politique en général.
Moi, c'est ce que je voulais...
Je suis un petit peu... pessimiste par rapport aux possibilités d'action du politique, quoi.
Non, mais je crois que ça, c'est le deuxième aspect de la question, et c'est très important. On écoutait le président de Nestlé, alors c'est un grand moment, on terminait sur l'interview, on a, On a les poils qui se hérissent sur les bras. Mais il est d'un... On a l'impression qu'il croit en plus à ce qu'il dit. Je pense qu'il y croit, qu'il est sincère. Mais d'une certaine façon, le problème pour moi, c'est pas qu'il y ait le président de Nestlé qui tienne ce discours et qui dise que son but, c'est de maximiser son profit. C'est normal, quelque part. C'est normal qu'il veuille que son entreprise gagne de l'argent. C'est normal que lui, il ait envie de gagner de l'argent. Moi, j'ai pas envie de le... Bon, j'ai pas envie de le détester, quoi, en gros. Par contre, ce qui est pas normal, effectivement, c'est qu'on ait laissé des entreprises prendre une telle taille et un tel pouvoir. Vous avez peut-être vu le film de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto. Là, c'est effrayant. Hein. C'est vrai qu'on ressort de la vision de ce film, on se dit, mais c'est cette entreprise, elle contrôle tout. Et le moindre scientifique qui bouge le petit doigt en disant « mais les OGM, vous êtes sûr que c'est bon pour la santé ?» Ben d'un seul coup, ses crédits de recherche, comme par hasard, sont coupés. Il est victime de campagnes d'intimidation, etc. Là, ça fait franchement peur. Et on se dit « est-ce qu'on vit encore en démocratie quand des entreprises ont un tel pouvoir ?» Mais je crois que ces entreprises, on leur a laissé prendre ce pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis d'accord avec vous, il y a des politiques qui ont démissionné et qui ont considéré que c'était aux entreprises en fait de régler les problèmes politiques. Quand le PDG de Nestlé parle de l'alimentation en eau, mais c'est pas à lui de décider comment on va alimenter en eau. Non, ça ce sont des problèmes politiques. À un moment donné, si un politique dit à une entreprise, bon ben on vous missionne pour accomplir telle mission, d'accord, mais c'est aux politiques de prendre les décisions. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ce sont finalement les grandes multinationales qui mènent le jeu. Mais ça, moi je crois que ça a été à un moment donné une décision politique de leur laisser les mains libres. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je dis pas que c'est facile. Mais enfin, déjà, faut en avoir conscience et interpeller nos élus et leur dire, mais qu'est-ce que vous faites sur tel ou tel sujet? Dans nos municipalités, arrêter de déléguer de la gestion de l'eau à des entreprises privées, le reprendre en régie directe. Pareil sur les déchets. Il y a des choses comme ça qui partent du local. Voilà. Bon, après, non, je dis pas que c'est super simple.
Bon, alors, moi, j'aurais plutôt envie de le détester. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est une certaine provocation, comment il s'exprime, hein ? Non ? Le président de Nestlé.
Je ne suis même pas sûr que ce soit de la provocation.
Si, il se moque vraiment du monde. Hein. Enfin bon, de toute façon, je constate l'immense lâcheté de l'être humain, parce que tout se voit, tout se sait, tout se cautionne. Et qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on est là ce soir, mais c'est tout. Hein. On ne va pas révolutionner le monde ce soir, je ne pense pas. Hein.
Ce soir, tout de suite, là, peut-être pas, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire.
Ouais, enfin bon. D'accord. Chouette.
Bon. Bonsoir. Vous êtes élu bourguignon, il me semble, hein, à la région. Donc vous êtes aussi concerné par les multinationales, par Amora, qui est donc une filiale de Unilever. Unilever doit être au moins aussi important que Nestlé. Et en allant à Auxerre, à Joigny la semaine dernière, à Poigny, on voyait n'acheter plus les produits Unilever. Il y a une telle liste. J'ai acheté du thé, c'était du Lipton, manque de chance, c'était Unilever. Donc vous êtes concerné aussi à la région pour conserver notre moutarde, bien que la moutarde ne soit plus plantée en Bourgogne, je crois qu'elle vient du Canada. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau-là ?
Ben là, justement, ça peut poser des cas de conscience, parce que les réactions politiques traditionnelles, ça pourrait être de dire Unilever menace de délocaliser, donc on va leur faire un pont d'or, on va leur donner encore de nouvelles subventions, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Ils gagnent déjà suffisamment d'argent sans qu'en plus les subventions publiques aillent encore à des groupes comme ceux-là. Donc, moi je crois que pendant trop longtemps, justement, on s'est aplati devant ce genre d'entreprise. Et pour moi, le rôle de la puissance publique, c'est pas de faire des ponts d'or à ce genre d'entreprise. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils veulent gagner toujours plus d'argent. Ils veulent gagner toujours plus d'argent. Le problème, c'est pas qu'ils perdent de l'argent, c'est qu'ils veulent faire encore plus de profits. Et je crois qu'on a eu tort. L'argent public doit s'investir, au contraire, pour soutenir des petits producteurs, pour soutenir des circuits courts de commercialisation. On peut créer aussi des emplois dans tous ces domaines-là. Aujourd'hui, en Bourgogne, des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, je leur souhaite beaucoup de plaisir. Hein. C'est difficile de trouver des terres disponibles. alors qu'on pourrait aussi recréer des emplois dans ce domaine-là. Les maraîchers, par exemple, qui approvisionnent Nevers, ils ne peuvent pas répondre à la demande. Il y a des terres disponibles, on ne veut pas installer de jeunes. Là aussi, il y a des problèmes politiques. Donc je crois que plutôt que de soutenir ces grandes multinationales, de toute façon, des budgets comme celui du Conseil régional ou du Conseil général sont hors de mesure par rapport à ça. Utilisons plutôt nos moyens pour essayer de recréer des emplois et une micro-entreprise au niveau local, que ce soit dans le domaine agricole, agroalimentaire, par exemple.
Je voulais savoir, là, il y a plein d'aberrations dans ce film qui sont dues à des gens qui ont des fausses vues sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter toutes ces aberrations qui nous coûtent finalement beaucoup d'argent?
Vous faites référence à quoi, de façon...
Il en parlait notamment à la pêche, là où il disait que finalement c'est des gens qui ne connaissent rien et qui font des lois sur la pêche. Il y a les jachères qui sont mis alors que on manque de... ils en parlent dans le film, plein d'aberrations. C'est des gens qui décident, qui connaissent pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela?
Je suis pas sûr qu'ils connaissent pas. C'est vrai, il y a peut-être des agriculteurs dans la salle ou des gens qui ont des bêtes, des éleveurs, non? C'est bien, peut-être qu'ils puissent s'exprimer aussi. Parce que sur la question, je vous passe. Allez-y. Si vous voulez dire quelque chose.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis en bio, alors je consomme pas de soja et puis voilà quoi. Puis j'avais envie de jeter une chaussure au gars de Nestlé là, parce que ça y aurait fait du bien.
Le jeter de chaussure apparemment a de l'avenir. Hein. Ça a été inauguré récemment. Non, mais par rapport à ce que vous disiez, je pense que effectivement ce sont des aberrations, mais dans un certain système qui est un système complètement fou, ça a une logique et une cohérence. Jean Ziegler expliquait très bien comment on était à la fois dans un système de libre-échange et qu'en même temps un faux système de libre-échange. Mais il y a eu des accords commerciaux entre l'Europe et d'autres pays du monde où on a dit on va cesser de produire des aliments pour le bétail et on va les importer notamment d'Amérique du Sud. En contrepartie, on va vous exporter autre chose. C'est la théorie qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs où on estime que c'est plus intéressant que chaque région du monde se spécialise dans certaines productions, comme ça elle maximisera sa production, ce sera le plus efficace possible, et puis on échange les produits, l'Amérique du Sud sera spécialisée dans le soja, l'Europe elle sera spécialisée dans l'élevage, mais c'est un système qui est complètement aberrant, je suis bien d'accord, mais il a une certaine logique interne, et je pense qu'effectivement c'est cette logique qu'il faut combattre, mais considérer que ce sont des technocrates qui comprennent rien à rien, ils comprennent très bien, mais dans leur logique à eux, qui n'est pas une logique durable. Voilà, donc il faut, je pense, opposer une autre logique, effectivement, où on retrouvera une certaine indépendance, une certaine autonomie, je préfère le terme d'autonomie, et où on construirait un système où les pays auraient à nouveau le droit de protéger leur agriculture. Mais nous-mêmes, Européens, on porte une responsabilité, parce que dans l'après-guerre, on a estimé que notre rôle, c'était de nourrir le monde. Et on a inondé notamment les marchés africains de nos productions en disant, nous on surproduit en Europe, donc on va envahir les marchés mondiaux, on va subventionner nos produits. Et on voit bien, c'était bien expliqué dans le film, aussi ce que ça a produit sur les agricultures locales. Donc aujourd'hui, les gens qui réfléchissent un peu sérieusement aux questions agricoles disent qu'il faut retrouver une certaine autonomie, permettre aux paysans africains de se développer, permettre aux paysans d'Amérique du Sud de se développer, et nous, en Europe, retrouver aussi une certaine autonomie par rapport aux aliments pour le bétail. Et on n'est pas obligé de les nourrir au soja, effectivement. Je ne sais pas avec quoi vous nourrissez vos animaux, mais j'imagine que c'est avec ce que vous produisez sur vos terres.
Avec ce que je produis sur mes terres, oui. Mais il y a d'autres façons de produire des protéines que d'importer du soja du Brésil, hein.
Non, c'était juste à propos du soja, parce qu'on m'avait dit qu'en France, on n'avait pas le droit d'en cultiver. Mais c'est juste parce que le climat s'y prête pas, c'est ça, non?
On a le droit de cultiver du soja. Après, je suis pas sûr que ce soit agronomiquement super, super intéressant. Mais ça, j'ai pas suffisamment de compétences.
Ouais. Et pour, quelqu'un sait peut-être, par exemple, dans beaucoup de plats bio, végétariens, entre le soja dans la composition. Alors, d'où est-ce qu'il vient le soja qu'on trouve cultivé en France, non?
Non, non, c'est à mon avis du soja essentiellement importé. Hein. Notamment du Brésil.
Du Brésil, c'est une culture qui s'est développée relativement récemment, non? La culture du soja au Brésil.
Là, je ne peux pas vous dire précisément. Enfin, c'est sûr qu'elle s'est développée récemment pour l'export. Après, c'est une culture qui devait exister quand même depuis... un certain temps.
Mais il y a beaucoup aussi aux États-Unis, ils produisent du soja. Hein. C'est pas spécifique au Brésil. Hein. Il y a Canada, États-Unis, une grande partie de l'Amérique du Nord produit du soja. Hein. Et tous les produits qu'on trouve en Europe, quand vous regardez les boîtes, le soja rentre dans je sais pas combien de produits fabriqués ici. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein.
Alors, d'autres remarques, des questions, des commentaires?
Oui, oui, il y a deux choses vraiment très importantes dans le film. À la fois la malbouffe ou le manque de goût dans le Nord, dans les pays riches et industrialisés, mais surtout aussi 800 ou 900 millions de gens affamés d'un mécanisme qui est expliqué d'une façon relativement simple. Une cause presque directe, la malbouffe du Nord entraîne presque, augmente au moins le affamé. Chez nous, on ne meurt pas, on devient obèse, on devient ceci, cela. Mais là-bas, ils meurent. Ils meurent de faim, ils ont moins de produits, ils deviennent de plus en plus pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres, ils fuient leur région pour aller dans les bidonvilles, etc., etc. Je ne sais pas si... Enfin, ce que je dis, rien de plus que ce qui a été dit, mais c'est cette conséquence-là qui est peut-être aussi plus dramatique que la première. Parce qu'à la limite, nous, on peut, par des petites choses, des petits superfuges, l'agriculture bio, enfin, je ne sais pas, sans minimiser les chaque chose. Là-bas, ils n'ont pas le choix. C'est crever de faim, pas d'eau, pas à manger, la sécheresse, un petit peu plus de... une semence hybride qu'il faut acheter, etc. Enfin, tous ces mécanismes qui ont des conséquences absolument horribles.
Mais Jean Ziegler, encore une fois, le dit bien, que les gens qui meurent de faim, il a des termes très forts, il dit les gens qui meurent de faim aujourd'hui meurent assassinés, parce qu'on aurait les moyens techniques de produire davantage pour nourrir l'humanité. Un des problèmes, c'est notamment que les pays du Nord consomment énormément de viande et qu'effectivement, pour nourrir ce bétail, on importe des céréales qui pourraient être consommées directement dans les pays où elles sont produites. Mais on les produit dans ces pays pour ensuite les exporter vers le nord, ce qui est complètement scandaleux, effectivement. Et on a chassé des paysans de leurs terres pour produire ces céréales. Et à l'inverse, nos surproductions vont inonder leurs marchés et ruiner leur paysannerie. Donc c'est vrai qu'il y a un lien direct... entre les deux, effectivement, on mange trop au nord, à quelques exceptions près, parce qu'aussi dans nos pays, il y a des gens qui mangent pas à leur faim, mais c'est marginal quand même. Mmh. Et...
c'est aussi les gouvernements de ces pays-là aussi qui ont voulu cette politique. Donc il faut pas non plus jeter la pierre. C'est sûr. Enfin, je sais pas, ils ont été appâtés par l'argent ou quelque chose comme ça. Donc ils ont permis de...
Oui, et ça, quelqu'un comme René Dumont l'a bien expliqué dès les années 60, c'est-à-dire que un certain nombre des élites au pouvoir dans les pays nouvellement indépendants, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, étaient un peu imprégnés de cette idéologie occidentale qui consistait à penser que l'agriculture, c'était pas un secteur très important, que c'était des ploucs, des illettrés, des abrutis, et que ce qui était important, c'était de développer des cultures de rente, des cultures d'exportation et des industries rutilantes. Et d'une certaine façon, beaucoup de pays du Sud ont abandonné leur agriculture au bénéfice d'autres productions. Et ça s'est révélé être une catastrophe.
J'ai le micro, là. Je voudrais aussi souligner le manque d'humanité vis-à-vis des poulets. C'est affreux. Et pour l'eau qui est prise dans des mares ou des choses comme ça, dans les pays d'Afrique... Il y a quand même des gens qui savent qu'il faut soit la traiter avec du sulfate d'alumine, soit la faire bouillir. Et c'est ce qui est fait dans certaines régions. Donc les gens n'ont pas forcément de l'eau de mauvaise qualité.
Et par rapport au poulet, moi j'avais vu déjà ce film qui avait été projeté au cinéma Le Mazarin. Il y avait eu beaucoup de monde aussi, c'était intéressant. Et c'est vrai que ce qui ressort aussi de cette agriculture industrielle, c'est l'absence de respect pour la vie et de lien avec les cycles naturels. L'histoire, il y a les poussins, c'est horrible, hein, c'est vraiment considéré comme, pas du tout comme des êtres vivants qui peuvent aussi souffrir, c'est considéré comme une pure marchandise. Et puis il y a la culture aussi sous serre, où on voit toutes ces plantes qui poussent sans aucun lien avec le sol, qui poussent dans de la laine de roche, elles sont sous perfusion. C'est là on se dit mais qu'est-ce que ça a à voir avec la vie, avec les cycles naturels? On est vraiment dans quelque chose de complètement artificiel, quoi.
Moi, je voulais juste vous faire part d'une expérience que j'ai vécue ces dernières semaines où en fait j'étais au Mali et au Mali ils ont rien. On peut pas parler de misère. C'est-à-dire qu'il y a une telle solidarité, il y a une culture qui fait que aujourd'hui personne ne meurt de faim. Alors qu'ils n'ont pas grand-chose. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans nos sociétés, on a explosé tout ce qui est lien social, etc. Et donc, on en arrive. C'est-à-dire qu'on est tous égoïstes. Je rejoins assez madame. On est tellement égoïstes qu'on a ouvert, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a des solutions au niveau de l'organisation quand il y a encore une organisation, je dirais, sociétale qui fait qu'on ne laisse pas quelqu'un sur le carreau, quoi. Et qu'il y a des pays où on ne meurt pas de faim alors qu'ils ont certainement rien. Donc ça m'a porté effectivement à réflexion, quoi. Donc, et c'est pour ça, donc je veux juste à Jean, c'est une question que je lui pose aujourd'hui qui me vient à l'idée, mais bon, c'est entre nous. Est-ce que ce qui se passe ce soir, est-ce que c'est un acte artistique ou est-ce que c'est un acte citoyen? Bon, c'est pas très important, de toute façon, c'est très bien. Mais tout ça parce que pour moi, c'est à la fois un peu différent, être citoyen, solidaire. L'acte artistique aujourd'hui, est-ce qu'il a un sens par rapport à tout ce qu'on voit? Quand je vois un film comme ça, j'ai envie de laisser tomber ma guitare et puis de passer à l'action, quoi. Voilà, c'était par rapport à ça que c'était ça. Merci.
J'en sais rien. Ce que je peux rappeler quand même, c'est que cette université, pour nous, c'est une mise en scène dans l'espace social. Et vous êtes les acteurs de quelque chose qui se joue ici. C'est comme ça qu'on l'explique théoriquement, mais on n'est pas naïf, on a quand même des idées derrière. Ça nous permet, pour quelque chose qui pourrait apparaître comme une action militante, puisque bon, vous avez dû remarquer que dans le programme de cette université, mais il y a Christian Vélo qui vient le 20 mars, qui est un de ces scientifiques qui a eu du CNRS et un biogénéticien qui s'oppose aux OGM et qui a eu des gros problèmes. Et ça a fait toute une... Il y a eu une mobilisation nationale il n'y a pas très longtemps pour qu'il puisse rester au CNRS. Donc il y a des choix comme ça d'intervenants qui sont faits. Mais oui, pour nous, il s'agit d'une mise en scène dans l'espace social destinée à impliquer des populations, c'est-à-dire à les rendre acteurs de quelque chose. Et nous, quand je vous dis, par exemple, chers étudiants, le terme n'est pas neutre, c'est-à-dire que pour nous, vous êtes des étudiants, on dit étudiants parce qu'on dit
quand on explique à la DRAC, par exemple, ce qu'on fait, au lieu de monter des pièces de théâtre, nous jouons quelque chose. Il y a bien des étudiants, donc ce sont pas des comédiens, ce sont des acteurs. Voilà, vous voyez, ça tient. C'est difficile à tenir. Hein. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière? Bon, quand on monte, moi j'ai monté à une époque Sainte-Jeanne des Abattoirs de Brecht. J'ai fait quand je monte Sainte-Jeanne des Abattoirs, où il est question des rapports entre l'argent, le pouvoir et l'humanitaire, déjà à l'époque, c'est pas neutre. Je pourrais monter Anouilh ou Tchekhov ou du théâtre psychologique, qui peut avoir son intérêt aussi, mais c'est pas neutre de monter. Donc on fait des choix, on peut faire des choix en tant qu'artiste, on peut faire des choix qui sont des choix engagés, c'est-à-dire où on parle du monde tel qu'il est, où on réfléchit sur le monde tel qu'il pourrait être. Et il y a des gens encore au théâtre et des artistes qui travaillent dans ce sens-là, où on peut être des artistes qui deviennent de véritables, soit des épiciers, c'est-à-dire qui produisent des objets à vendre et dont l'objectif est de produire des objets, quelle que soit la qualité des objets qui sont produits, soit devenir de véritables multinationales de l'art, on peut dire. Bon, c'est-à-dire que bon, on passe dans des zéniths, on fait venir des. Le but, c'est de faire venir au même endroit un maximum de gens à un prix maximum, de manière à avoir des profits maximum. Et à ce moment-là, on rejoint exactement sur le plan artistique, on rejoint exactement la logique de Nestlé. C'est-à-dire qu'il y a des multinationales de l'art aussi. Si vous prenez la question du marché de l'art, la reconnaissance par l'art et par les soi-disant experts qui décident de ce que c'est que l'art à un moment donné, évidemment, ce qui se passe ici, si on le considère comme un acte artistique, si on le considérait comme un objet artistique, quelque chose qui se joue, ça ne peut avoir aucune valeur, quoi. C'est-à-dire on peut pas l'acheter. Et vous voyez, donc est-ce qu'aujourd'hui, moi je dirais qu'aujourd'hui le rôle des artistes, s'ils ont une conscience citoyenne, c'est de produire des objets qui parlent, mais qui sont impossibles à négocier. Donc on mène des expériences. Bon, j'en profite pour vous parler de ça, mais on mène des expériences comme ça qui. On a fait les 80 ans de ma mère autour d'un fait de société, on avait envie de parler de l'âge et de la vieillesse dans cette société, des préjugés par rapport à l'âge, de la catégorisation des personnes, du fait, par exemple, que certains politiques considèrent que dans ce département, le fait qu'on ait beaucoup de personnes âgées est un handicap. C'est ce que j'avais entendu c'est ce qui a donné ce projet. C'est-à-dire que, bon, on organise une action, on fait une mise en scène dans l'espace social qui permet aux gens de se poser des questions et puis d'aboutir à une réflexion et d'agir s'ils ont envie d'agir. Il ne s'agit pas de... Vous savez, l'université aussi, au départ, c'est un projet qui s'appelle « Alors on s'embrasse ». Ça part de quelque chose d'un peu déconnant qui est la promotion d'une bière virtuelle qui serait en lien avec l'abbaye de Corbigny. Et donc le lien avec les cafés, on rentre dans les cafés avec cette bière virtuelle, c'est-à-dire que, et on dit, voilà, on va s'abreuver de connaissances, s'enivrer de savoir et se griser de questions. Ça part de ça. Et puis le rapport entre est-ce que c'est citoyen ou est-ce que c'est artistique, cette université, elle a été bâtie au départ sur la question de cette bière virtuelle, c'est-à-dire un mensonge. Et donc le thème général de cette université des bistrots, c'est mensonge et réalité. C'est-à-dire que ça nous permet d'aborder tous les sujets, parce que la question du mensonge et de la réalité, ça permet tous les sujets. Donc on peut prendre n'importe quoi. Et puis d'un autre côté, je ne l'ai pas dit depuis longtemps, mais pour nous, nous ne présentons que des menteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. On n'essaye pas de vous convaincre. On vous présente des menteurs, et ces menteurs, par leur discours, alors il y a des gens qui disent, quand je l'ai dit une fois, ils disent, mais c'est pas un menteur, mais c'est votre problème, c'est pas un menteur, c'est pas le nôtre. Pour nous, c'est un menteur. Voilà. Donc, c'est la différence entre les actions artistiques et les actions militantes qui peuvent être différentes. Mais les artistes, ils ont quand même une possibilité. Et puis, il y a une autre façon, mais ne le dites pas, hein. Je vous le dis à vous, ne le dites pas. C'est une façon, en disant qu'il s'agit d'une mise en scène dans l'espace social, ça nous permet d'obtenir des financements de la direction du théâtre, Et ça nous permet d'utiliser l'argent de la culture, c'est-à-dire qui est destiné à faire des créations, à soutenir des, vous voyez, le travail artistique habituel. J'ai rien contre, mais là, ça montre qu'on peut utiliser ces parce que c'est pas gratuit ce qui se passe ici. En fait, vous avez déjà payé, donc ça permet d'utiliser certes, des fonds culturels pour parler d'autres choses que d'art et de la chose artistique, voilà. C'est-à-dire qu'on a, ça nous donne une liberté, quoi, et on peut le faire. On montre qu'on peut le faire, quoi. Voilà. C'est un peu long comme réponse. Mais...
Par rapport à ce que tu dis de l'art, enfin, je trouve que ça interroge aussi sur. Qu'est-ce que l'art, notre rapport aux autres, parce que c'est effectivement aussi bien l'aspect ce qui renvoie à la créativité, à la manière dont on est en lien avec les autres, c'est aussi plein dans le sujet, parce que là, c'est bien ça qui est en cause, là, notre manière de consommer, c'est aussi notre lien à l'autre, comment on crée. Enfin, je trouve pas qu'on puisse cliver comme ça ce qui est artistique, ce qui est citoyen. Je trouve que...
Oui, il y a une dame qui disait, ben oui, à Saint-Sauze, elle a peut-être pas dit Saint-Sauze, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il y a des associations à propos des problèmes économiques, qui est par exemple ATTAC, A-T-A-C, qui a fait un travail formidable par le conseil scientifique qu'il y a. Bon, c'est une organisation humaine, elle a passé par un bab là quelques années, mais elle remonte, et ses commentaires sont vraiment intéressants et pertinents. Je pourrais dire aussi, hier soir, il y a eu un film à propos des OGM, très projet OGM, quoi, en passant beaucoup de scientifiques. Quoi.
Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que la démarche globale pour essayer de comprendre ce qu'on fait au Théâtre Éprouvette, pourquoi ces propositions, c'est que la démarche globale du Théâtre Éprouvette, c'est la question du bonheur. Sur un territoire. Donc on a par exemple fait sceller une plaque en bronze à Corbigny sur le pont de Languison en disant une pièce dans Languison c'est du bonheur à foison. On a dans le cadre d'une action qu'on avait menée en l'an 2000, on a créé un monument aux événements heureux à Fairtrève devant la mairie. À Fairtrève, il y a un monument aux événements heureux où les gens sont invités à inscrire les. Ben d'ailleurs, vous avez inscrit la naissance de votre fils. C'est-à-dire où les gens sont invités à inscrire les événements heureux. Et ce travail autour du bonheur, on l'a conçu à travers, par rapport à ce que une remarque d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe, qui définit le bonheur, qui définit trois éléments essentiels pour aller vers le bonheur. Il dit que un élément essentiel c'est la connaissance, un autre c'est l'action, et le troisième c'est la relation à l'autre. Et donc, on travaille dans ces trois axes-là. Donc, on travaille sur l'idée de bonheur et on essaye de monter des choses où il est question de la connaissance, comme ce soir-là, où il est question de la relation, où il est question de la relation à l'autre et où il est question de faire agir. Et donc, voilà, hein, c'est pas plus difficile que ça et c'est la démarche sur plusieurs années du Théâtre Éprouvette. Et on va reprendre... là, par exemple, on a fait un appel aux mairies. C'est pas facile, les gens n'osent pas, mais on va reprendre un... On fait des appels aux mairies pour refaire des monuments aux événements heureux dans d'autres communes pour montrer que sur ce territoire, l'idée de bonheur reste une idée neuve et que on n'a pas l'intention d'oublier que ce qu'on fait, c'est quelque chose qui c'est une volonté d'aller vers le bonheur, quoi. Et la connaissance, même voir ce film, en fait, et puis le rapport à la connaissance, comme ça se fait ici, c'est... L'idée, c'est aussi de montrer que le rapport à la connaissance, c'est pas quelque chose d'ennuyeux. C'est pour ça aussi qu'on a bombardé l'abbaye de Corbigny, abbaye du jouir. Ça fait râler tous les corbigeois. C'est, vous voyez, donc on est sur une démarche logique, quoi. On a pensé un petit peu, quoi. On fait pas n'importe quoi. Et puis, par rapport à la consommation, sur ce qui est de la, ce matin on avait une réunion, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la DRAC, etc., le Conseil général, le Conseil régional, le comité de pilotage de l'abbaye de Corbigny, et je disais à quelqu'un, c'est incroyable comme c'est difficile de faire comprendre que pour ce qui est de l'art et de la culture. Il y a souvent une confusion entre art et culture. Il y a une confusion terrible entre art et culture. Mais pour ce qui est de l'art, aujourd'hui, une proposition culturelle, on a l'impression que c'est une proposition de diffusion de spectacles. Et c'est ça une proposition culturelle. C'est-à-dire une politique culturelle dans une commune, c'est proposer des spectacles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est proposer de la consommation d'objets artistiques, culturels, c'est la consommation d'objets et de payants le plus souvent, hein, donc payants et le et ouais c'est ça. Et donc on est dans quelque chose qui relève de la consommation, alors qu'en fait l'art et la culture ça peut prendre d'autres voies qui sont pas le fait d'aller à un spectacle. Bon, c'est une petite partie des possibilités de diffuser, de faire circuler les idées, si on veut, ou de faire germer de la pensée, parce que ça sert à ça aussi l'art, ça sert à faire germer de la pensée. Donc, mais on a du mal à imaginer autre chose. C'est terrible. Hein, on a du mal à imaginer autre chose. Je jouerai pas.
C'était intéressant.
Moi, je voulais revenir sur la déshumanisation du poulet là, qu'on voyait tout à l'heure. Et en fait, je trouvais cette image très symbolique et qui résumait exactement la société dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire mettre les gens dans des casiers, les trier, carrément ne plus avoir de rapport humain avec l'autre. Et puis les jeter, les renverser comme ça. Et il faut remarquer une chose, c'est qu'il a fallu arriver à des extrêmes comme ce qu'on appelle des cataclysmes ou des catastrophes météorologiques, comme il y a eu ces temps-ci. Nous, on l'a vu, on vient de Lozère, avec la neige. Dans le sud-ouest aussi, la Nièvre a été touchée il n'y a pas si longtemps. Mais il faut arriver à des extrêmes pareils pour redécouvrir ou découvrir simplement qu'on a un voisin. Et ça, c'est terrible. Savoir qu'on peut compter sur l'autre et inversement. Et on découvre qu'on a un voisin, que le voisin, il est sympa. Inversement, d'un seul coup, super, on a tout déneigé. Demain, on va manger ensemble. Alors que ça fait peut-être 6 ans qu'on habite l'un à côté de l'autre. Quoi. Et ça se remarque énormément. Il y a une solidarité qui s'est découverte. Et en espérant que ça aille encore dans le bon sens. Voilà, tout simplement.
Moi, j'aimerais savoir si tu peux expliquer comment, parce que les émeutes de la faim qu'il y a eu récemment, tout ça, enfin, ça vient un peu du fait que maintenant il y a des mecs qui peuvent débarquer sur le marché et dire voilà, moi maintenant j'achète la récolte de blé 2015, et donc c'est de la spéculation purement financière sur une production agricole. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça?
Je ne sais pas si je suis suffisamment compétent pour expliquer ça. Les émeutes de la faim, on en a pas mal parlé effectivement l'année dernière, mais je veux dire, la situation, elle est linéaire, c'est-à-dire que les choses continuent comme depuis des années où il y a toujours autant de gens qui souffrent de la faim. Alors les gens qui veulent être optimistes disent, mais en proportion, il y a moins de gens qui meurent de faim. Bon, non mais c'est vrai, c'est ce qu'ils disent, puisque la population augmente énormément et le nombre de gens qui meurent de faim augmente juste un tout petit peu. Donc ils disent, quand même, ça s'améliore. Donc c'est super, c'est d'un cynisme assez, assez terrible. Mais je crois que les causes des émeutes de la faim, elles ont bien été expliquées dans le film. C'est qu'à un moment donné, les gens ont tout simplement plus la possibilité de vivre sur leur terre ou même d'acheter des produits agricoles qui à certains moments peuvent effectivement flamber. Il y a eu un des effets quand même importants des émeutes de la faim, enfin une des causes, pardon, c'est tout l'engouement qu'il y a actuellement pour ce qu'on appelle les agrocarburants plutôt que les biocarburants et qui ont fait monter de façon importante le coût des denrées alimentaires. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des tensions sur les marchés de l'alimentation parce qu'au lieu d'utiliser des produits agricoles uniquement pour l'alimentation, ces productions agricoles se trouvent aussi utilisées pour produire des carburants. Et ça a fait monter de façon très importante le coût des matières premières et des matières agricoles, ce qui fait qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ne pouvaient plus acheter. Voilà. Donc, parce qu'elles étaient déjà des populations déjà très pauvres. Et ça, plusieurs fois, il y avait eu un théma comme ça, je crois, sur Arte, sur la question des agrocarburants, où ils avaient longuement interviewé Ziegler et qui disait que c'était un crime de vouloir développer les agrocarburants, parce que la priorité, c'est de produire des biens, enfin des productions pour l'alimentation. Que le jour où on aura nourri tout le monde dans de bonnes conditions, on pourra peut-être réfléchir à utiliser des céréales pour faire tourner des moteurs, mais qu'en attendant, la priorité, c'est quand même de nourrir les hommes. Voilà. Et voilà, ce développement de ces agrocarburants a entraîné des tensions sur les cours des produits agricoles.